Thank you. Bienvenue dans Sporama, la dernière émission de 2019. Eric Manirakiza avec vous ici à Washington, dans le studio 9 de La Voix de l'Amérique. Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué en 2019? Votre analyse, votre commentaire, c'est dans Sporama. Nous aurons évidemment consultant sportif au Maroc, Amine Birouk. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Ça va très bien, Jules Valentin Ngoué.
Ça va bien,
tu
bonsoir
es là.
Eric, bonsoir à tous.
Je n'ai pas entendu le sifflet du début.
Il va venir, c'est sûr.
Il va venir. Ouais, voilà, on essaie de joindre Ahmedine Sy et Élisée Ongpatine. Nous espérons les avoir avant la fin de cette émission. Eh bien, on va commencer d'abord avec les dernières rencontres de la Premier League en Angleterre. On a vu Liverpool qui restait conquérant. On a vu Man City qui se ressaisit et Arsenal qui sombre. Amine.
Évidemment, c'est une période de fête où le football européen s'arrête, sauf en Angleterre. Les Anglais font en sorte que le football soit un prolongement des fêtes de fin d'année. Et c'est la période où les points coûtent très cher. Visiblement, il y a une valeur qui est stable, elle est même en hausse. C'est Liverpool qui vise un titre dont le club a été privé depuis 29 ans et qui a réussi à gagner ses deux matchs contre Leicester 4-0 et surtout dans la difficulté hier contre Wolverhampton 1-0. Un but marqué par Mané, on parle encore de l'Avare qui a accordé un but à Liverpool et qui en a refusé un aux Wolves. Et puis de l'autre côté, vous avez des valeurs qui fonctionnent sur courant alternatif. City, battu par Wolverhampton 3 jours plus tôt, qui s'est défait de Sheffield United 2-0. Et puis vous avez des équipes qui aujourd'hui ne fonctionnent pas du tout, c'est le cas d'Arsenal. Les Gunners, depuis l'arrivée de Arteta, n'ont pris qu'un point sur 6 possibles. Et hier, ils ont connu le plus gros bug de cette année, puisqu'ils menaient devant Chelsea dans le derby londonien et se sont inclinés dans les 10 dernières minutes en concédant 2 buts.
Visiblement, mais il y a aussi l'arbitrage qui a aidé Chelsea.
Oui, visiblement, mais le plus important, c'est qu'on a des tendances qui s'inscrivent depuis le début du championnat anglais. Il faut juste préciser que l'équipe d'Arsenal ne marche pas depuis le début du championnat, qu'elle s'est passée pour la première fois en cours de saison des services de son entraîneur, Unai Emery, qui a été débarqué. Il y a eu l'intérim Freddy Ljungberg et maintenant c'est Arteta qui a pris les choses en main. On va voir si après le Boxing Day, l'équipe va pouvoir s'améliorer. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance avec Liverpool seul au monde et puis les autres. Même l'équipe de Manchester City qui semblait pouvoir postuler au titre se retrouve quasiment à 14 points et ça crée un des championnats les plus disproportionnés du football anglais depuis une dizaine d'années. D'habitude, c'est un championnat beaucoup plus rude, c'est une concurrence plus serrée. Cette année, il y a un club qui marche sur l'eau et puis il y a les autres qui sont un peu plus bas.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un rebondissement?
La saison dernière avait un rebondissement. On avait vu que Liverpool avait démarré de manière tonitruante le championnat, qu'elle avait réussi à passer la période des fêtes largement en tête, et puis elle a commencé à laisser des plumes en route, ce qui a permis à City, qui a été beaucoup plus régulier, de revenir, de grignoter du terrain, et puis de l'emporter sur le fil. Mais il y a aujourd'hui un capital expérience. L'équipe de Liverpool possède un an de plus en termes de vécu collectif. Elle a des individualités qui font la différence, un fond de jeu qui, sans être très spectaculaire, est terriblement efficace. Et puis, si la saison dernière l'équipe était focalisée sur 2 tableaux avec la Champions League qu'elle a brillamment remportée, cette année, la priorité reste le championnat. En Angleterre, on donne beaucoup plus de valeur à la Première Ligue qu'aux différentes compétitions européennes. Et c'est un titre qui fuit Liverpool depuis 1990. On rappelle que Liverpool, jusqu'au début des années 90, était le club anglais le plus titré. Et depuis, il y a eu le passage de Sir Alex Ferguson à Manchester United qui a permis aux Red Devils de dominer les Reds. Aujourd'hui, c'est la suprématie du football anglais qui compte le plus, et visiblement Liverpool a de la marche cette saison.
Jules.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait juste, mais je crois que le succès de Liverpool vient aussi du fait que dans le championnat anglais actuel, dont les règles, les fondamentaux du football international ont prévu, ont prévalu. Et on sait que pour avoir une grande équipe, il faut avoir un grand gardien, une très bonne défense et des joueurs qui font la différence en attaque. Mais tout repose sur la défense et le gardien d'abord. L'équipe de France l'a démontré et d'autres équipes, le Bayern Munich de l'époque l'a fait aussi. Et donc c'est le cas pour Liverpool. Il a un bloc défensif très difficile à bouger et c'est une équipe en confiance avec des flèches en attaque et un très bon gardien. Et donc elle sera pas facile à déboulonner. Et alors qu'en face, Arsenal et Manchester City, qui sont justement des équipes très offensives, qui jouent la fleur au fusil, même Manchester United commence à décrocher justement face à ce rapport de force.
Si vous essayez de regarder des championnats européens, est-ce que le championnat anglais reste le meilleur selon vous, Amine?
Le championnat le plus rythmé, le championnat où on peut avoir des surprises à chaque week-end parce que toutes les équipes disposent de la surface financière nécessaire. Il faut aussi dire que la répartition des droits télé est plus égalitaire que dans d'autres championnats. Ça permet à des équipes comme Wolverhampton de dominer Manchester City après avoir été mené 2-0. Ça permet à un Brighton d'accrocher Tottenham. Et donc ça donne du suspense. Les Anglais ont gardé leur ADN en termes d'intensité, de rythme. C'est un football qui est très spectaculaire avec des retournements de situation. C'est le championnat le plus attrayant, mais attention, sur les dernières années, la tendance, c'est la Champions League et les différentes compétitions européennes. Sur cette décennie, l'Angleterre n'a pas été très fringante, c'est même l'Espagne qui a été dominatrice. Maintenant, avec le départ de Cristiano Ronaldo et puis, je dirais, un Messi un peu en dedans, sur les compétitions européennes, on a vu des Anglais émerger. La saison dernière, il y avait même eu 4 équipes anglaises dans les finales des différentes compétitions européennes. On va voir si cette tendance va se poursuivre. Mais ce qui est certain, c'est que le football anglais possède son charme et sa particularité. Et cet ADN est visiblement préservé aussi par la présence de supporters. Vous avez des matchs où les supporters, leur équipe est en deuxième ou en troisième division, ils sont 30 000 fidèles, ils ne sifflent jamais l'adversaire. Même quand leur équipe subit une lourde défaite, ils continuent à l'applaudir. Et c'est état d'esprit qui fait que l'Angleterre a un football qui est bien particulier avec son charme, bien particulier aussi.
Gilles ?
Oui, bien sûr. Le championnat espagnol, pour moi, est toujours en tête, aux côtés du championnat anglais qui a en quelque sorte retrouvé le championnat espagnol au sommet de l'Europe. Parce que si on voit les statistiques, que ce soit en Champions League, Barcelone et Real ont gagné plus de matchs et il y a même eu 2 finales espagnoles. Si je ne m'abuse, alors que de l'autre côté, FC Séville et l'Atlético monopolisaient l'Europa League. Donc, au niveau des statistiques, il n'y a pas match sur les 10 dernières années. Mais, bien sûr, en ce qui concerne cette année, et un tournant s'est opéré et les Anglais sont revenus au premier plan. Ils ont aussi un avantage et quand on juge les 2 championnats, c'est qu'en Angleterre, et bien sûr, et disons que le niveau est très homogène, alors qu'en Espagne, c'est le même qu'on retrouve à la lutte. Le niveau est donc homogène en Angleterre. Et en même temps, les clubs anglais sont très engagés et sont souvent tournés vers l'attaque, ce qui donne un football, ma foi, très passionnant à suivre.
Jude, Jürgen Klopp, il doit être l'entraîneur le plus heureux en ce moment. Il y a aussi Zidane qui semble revenir en force.
Oui, bien sûr, surtout qu'on lui donnait une étiquette d'entraîneur romantique à Dortmund qui fait du beau jeu, mais qui en fin de compte ne gagne pas des trophées. Mais à Liverpool, il a démontré que ce n'était pas le cas. Il a trouvé une équipe et une philosophie de jeu très différente. Il s'est adapté, il a mis également son empreinte en faisant jouer l'équipe très vite. Et finalement, à Liverpool, on se rend compte comme à Dortmund où il était. Et la vedette, c'est d'abord l'équipe. Et je crois que c'est ça qui le fait gagner.
Amine, Manchester United, on a vu que l'entraîneur vise au moins 5 noms pour renforcer ses rangs. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui veut maintenant conquérir le titre?
Pas conquérir le titre, puisque l'avance est trop acheté la Champions League. C'est une manne financière importante et le fait d'en être privé depuis quelques saisons, de devoir disputer comme cette année-là l'Europa League, ça prive Manchester United d'une vitrine qui est nécessaire pour pouvoir revenir au premier plan. Ce qui est certain, c'est que Manchester United n'a jamais réussi au cours des dernières années à retrouver l'équilibre et la force qu'elle avait du temps de Sir Alex Ferguson. Elle a tenté de multiples expériences avec de nouveaux entraîneurs. On a eu David Moyes, on a eu José Mourinho. Avec Mourinho, il y a eu le gain d'un titre en Europa League, mais sans plus. Et puis, depuis cette saison, il y a Solskjaer, qui est un ancien joueur du club, une des gloires de cette fameuse finale de 1999 face au Bayern de Munich. Et lui aussi n'arrive pas à trouver la bonne carburation. Il y a le coup de blues de Paul Pogba, qui devait être le leader de ce projet, ses envies d'aller voir ailleurs, et notamment de porter les couleurs du Real Madrid. Il y a l'absence d'un véritable leader de jeu, même si Rashford peut être cet élément, mais à court terme, ce n'est pas la locomotive de cette équipe. Donc, la recherche de renfort au mercato, c'est surtout pour s'assurer une place parmi les quatre premiers, car visiblement, il y a une équipe au-dessus de lui aussi, Liverpool. Il y a aussi certainement une équipe de Manchester City qui sera beaucoup plus forte lors de la deuxième phase du championnat et qui finira certainement sur le podium. Il y a le trouble fait avec Leicester, mais après, il y a une place à prendre. C'est entre Tottenham, Manchester United, un cran dessous l'équipe de Chelsea et peut-être Arsenal si elle arrive à trouver la bonne carburation. Donc, une place parmi les quatre majeurs du football anglais est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, Manchester United ne peut pas concevoir une deuxième saison consécutive sans disputer la Coupe aux Grandes Oreilles.
Attends, commentaire sur Zidane.
Et puis sur Zidane, ce qui est certain, c'est que Zinedine Zidane a donné au Real Madrid un choc identitaire. C'est une équipe qui est en train de revenir petit à petit dans la compétition en Espagne. Elle n'a que 2 points de retard face à l'équipe de Barcelone. On l'a vu sur les dernières sorties, notamment lors du Classico, que cette équipe avait retrouvé des couleurs. Maintenant, est-il capable de faire une deuxième partie de saison aussi bonne avec son club et surtout d'atteindre quelques objectifs, c'est-à-dire au moins de gagner un titre? C'est ce qui permettra de déterminer la valeur du travail qu'il a proposé depuis son retour au Real Madrid au mois de mars dernier.
Il a eu beaucoup de blessés.
Les blessés, maintenant il n'y en a que 2 dans l'infirmerie, puisqu'il y a eu un entraînement aujourd'hui ouvert au public. C'est un peu le cadeau de fin d'année que propose le club à ses supporters, et seul Asensio et un degré moindre Eden Hazard, qui n'arrivera pas à disputer la Supercoupe d'Espagne, manque à l'appel. On verra maintenant dans quelle mesure il va pouvoir gérer ses ressources humaines pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le Real est engagé sur 3 fronts: Coupe, Championnat, Supercoupe et un degré moindre à la Ligue des Champions, un 4e front. On verra si le club à la fin de la saison parviendra à détrôner le FC Barcelone, qui est le grand dominateur de cette dernière décennie en termes de Ligue.
Voilà, nos auditeurs sur Facebook, ils écrivent des événements qu'ils ont retenus pour cette année. Il y a la Ligue des Champions et Clovis le Pharaon, il dit que c'est le but de Léo Messi sur un coup franc face à Liverpool en Ligue des Champions. Salomon Mungidou, il parle également de la Ligue des Champions, l'élimination de Barcelone en demi-finale et la Coupe. Et Kalou Buenda qui parle également de la Ligue des Champions, le match retour Barcelone-Liverpool 4-0. Salvador Almeida, 4-0, qui parle justement de cette rencontre Barça contre Liverpool. Moutebua, il parle également de Barcelone éliminé par Liverpool à la remontada de 4-0. Le match retour de la Champions League entre Liverpool et Barcelone, c'est Yoka qui le dit. Vous partagez le point de vue?
Écoutez, si on doit se poser sur le plan du football international, la remontada de Liverpool face à Barcelone reste un événement marquant, parce que il a signifié juste une passation de témoin. Le fait qu'une équipe n'a jamais baissé les bras, elle était menée 3-0 au match aller et elle a réussi un exploit retentissant qui lui a ouvert les portes des compétitions européennes. Et si on devait rester dans le giron du football africain, il y a la Coupe d'Afrique des Nations avec le triomphe de l'Algérie et puis toutes les vicissitudes qu'a vécu la CAF cette saison, avec notamment une finale de Ligue des Champions qui n'est jamais arrivée à son terme et qui risque de connaître non pas un dénouement évidemment sur le plan judiciaire avec une affaire qui a été portée devant le TAS, mais justement une affaire qui fera jurisprudence, qui permettra certainement au football africain de revoir ses process. La finale désormais, les finales, la Coupe de la CAF et la Champions League vont se disputer à match unique sur terrain neutre. C'est déjà une avancée, et s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé à Rades, je ne pense pas que le football africain et notamment ses dirigeants en seraient arrivés à cette conséquence et à cette décision.
Le plus beau but ?
Le plus beau but, oui, certainement celui de Lionel Messi, mais combien de buts a-t-on vu sur des terrains anonymes ? Je pense que le football, c'est une passion, et le fait d'avoir des artistes, des créateurs du calibre de Léo Messi, le fait qu'il puisse marquer un but devant des centaines de millions de téléspectateurs et de cette qualité-là, ça ne fait que amplifier la passion du football qu'ont les supporters et donner également, ouvrir des vocations à tous ces jeunes qui aimeraient un jour lui ressembler.
Jules ?
Oui, oui, pour les grands événements, on n'est pas...
Le but de Messi et la Champions League.
Oui.
Le but de Messi et la Champions League.
Ah, le but de Messi, oui. Bon, mais cette année, Messi a complètement crevé l'écran au niveau surtout de la variété de sa production. Et dans cette variété de la production, les coups francs sont tirés sur tous les coins et à distance, multiples, ont permis de voir que Messi a en quelque sorte fait progresser son jeu dans le bon sens. Bon, mais sinon, les coups francs, on en a vu pendant l'année, mais moi, le but qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le but de Messi, mais c'est plutôt le but de Andjara pendant la Coupe du Monde féminine, le magnifique but qu'elle a marqué contre la Nouvelle-Zélande. Et quand on parle du football féminin, vraiment, c'est une action particulièrement lumineuse.
Oui, nos auditeurs retiennent également l'attribution du Ballon d'Or. Jean Sokola, il dit « J'ai été très choqué de voir Sadio Mané perdre le Ballon d'Or alors que c'est lui qui le méritait. » Zoumnome Pacagne, il dit également la même chose. Il dit que c'est Sadio Mané qui méritait ce Ballon d'Or. Christian Djerabé, il dit la même chose. Haroun Bakari, même chose. Il dit que les organisateurs de ce Ballon d'Or ont déçu, que ce n'était pas Lionel Messi qui le méritait. Tidiane Botegueba, il dit le sacre du Ballon d'Or 2019, c'est Mané qui devrait l'avoir, Jules.
Oui, disons que Mané était parmi les prétendants les plus sérieux à ce Ballon d'Or, mais il ne faut pas oublier que le Ballon d'Or, c'est une distinction, ce n'est pas en quelque sorte quelque chose de très, très rationnel à 100%. Donc on a eu dans le passé beaucoup de cas de joueurs qui n'ont pas gagné les trophées et qui ont les Ballons d'Or, en commençant par Ronaldinho, Nedved ou autres. Bon, donc Mané, on est frustré pour Mané, bien sûr, mais Salah aurait pu également dire qu'il est l'animateur de jeu de l'attaque de Liverpool. C'est un buteur et aussi un passeur en même temps, même s'il n'a pas fait une longue, disons qu'un long parcours à la CAN. Et de l'autre côté, la prestation individuelle de Messi cette année a vraiment été ébouriffante. Mais sinon, ces auditeurs ont raison d'exprimer leur frustration. Mané aurait très bien pu être le Ballon d'Or de cette année.
Il y a aussi Yadamas Moussaou qui parle de racisme. Amine, sur cette question du Ballon d'Or.
On ne va pas aller jusqu'à ce terme, utiliser ce terme, mais disons qu'il y a un petit préjugé par rapport à l'Afrique, puisque visiblement, à part George Weah, et c'est les chiffres qui sont têtus qui le rappellent, aucun joueur africain n'a remporté le Ballon d'Or depuis son instauration et son universalisation en 1995, alors qu'on aurait pu avoir un Samuel Eto'o moins sur le podium. Mais ce qui est certain, ouais, Didier Drogba aussi. Mais ce qui est certain, c'est que cette saison aurait dû être celle de Sadio Mané. C'est l'année ou jamais pour pouvoir le voir au sommet du Ballon d'Or.
Est-ce que les pénaltys qu'il a ratés pendant la CAN n'ont pas été, disons...
Mais est-ce que la CAN a été comptabilisée ? Parce que si on devait se référer aux critères de performance, Sadio Mané a remporté la Supercoupe d'Europe, la Champions League européenne. Il a fini la saison avec la Coupe du Monde des clubs et le verdict est arrivé bien avant. Et il a fini finaliste de la CAN. Lionel Messi, en termes de performance collective, n'a remporté que la Liga espagnole et le titre de meilleur buteur, le fameux soulier d'or. Avec son équipe nationale, il a échoué en demi-finale de la Copa América. Et c'est un titre qui semble maudit pour lui depuis quelques années. Et avec Liverpool, avec Barcelone, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Pedro à Liverpool. Donc, en termes de performance en club et en sélection, Sadio Mané, lui, est supérieur. Maintenant, on reste ébloui par certains flashs, par certains buts, par certaines actions qui font de lui un joueur unique. Mais franchement, c'était l'année ou jamais de voir Sadio Mané remporter une consécration sur le plan mondial.
Il reste toujours au top, espérant que 2020 il va l'avoir.
Juste au juré de ce fameux prix qui existe depuis 1957, de nous expliquer les critères et d'être une fois pour toutes transparent en termes de critères, parce qu'on ne peut pas fluctuer d'une année à l'autre.
Oui, il nous reste moins de 4 minutes avant d'arriver au terme de cette émission. Nos auditeurs retiennent également la CAN. Kevin Kanyinda, il parle de l'arbitrage qu'il faut revoir en Afrique. Osana Deboto, lui, parle de l'excellente prestation des Malgaches. Victor Kim Mal, il parle de l'élimination de la RDC. Séraphin Ounza, la victoire du Bénin contre le Maroc. Malik Sissoko, la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique. Et Diallo Tcherno, Omar Diallo, qui parle de la qualification historique des Malgaches. Et puis Freddy Vainqueur parle de l'élimination des Léopards. On va partager les 2 minutes et demie qui restent. Jules.
Oui, nous avons eu une très belle CAN en Égypte au niveau de l'organisation, même si les stades étaient vides et au niveau du jeu également. Je crois que ça sera une CAN de référence malgré le fait que l'Égypte l'ait reçue à la dernière minute.
Amine.
Oui, une CAN qui restera gravée dans les mémoires. Je pense que pour l'Algérie, c'est un souvenir inoubliable. Le fait que la VAR a été utilisée à partir des quarts de finale, il faudrait généraliser cette technique dans la mesure où on ne peut pas jouer avec deux règles différentes. Et puis, que dire du niveau de l'arbitrage africain? C'est un véritable chantier. Le chantier de la gouvernance de la CAF est aussi un élément à prendre en compte. Et puis, on va juste rappeler qu'on va revenir à l'ordinaire avec une compétition dont la date ne sera définie que prochainement, puisqu'on va, on semble se diriger vers une CAN 2021 au Cameroun en hiver, janvier-février, comme il y a quelques années. Et puis la gouvernance de la CAF, la mise sous tutelle de la CAF avec la présence de la Sénégalaise Fatma Samoura. On attendra la fin du mois de janvier pour savoir si ce mandat sera prolongé ou s'il sera interrompu.
Il y a également l'athlétisme et la NBA dont parlent nos auditeurs. Goz et Eric Goz, ils parlent de la Côte d'Ivoire, à nouveau sur les plus hautes marches du monde avec l'athlétisme et le taekwondo. NBA, le sacre des Toronto Raptors, Toronto qui alignait dans ses rangs quelques joueurs d'origine africaine. Il nous reste quelques secondes, Amine, en commentaire sur ça.
Commentaire, souhaitons juste une bonne et heureuse année à tous nos auditeurs pour 2020 et on espère qu'elle sera beaucoup plus fructueuse et que nous aurons de belles compétitions, de belles sensations fortes à proposer à nos auditeurs et vive le sport en Afrique.
Jude.
Oui, moi je reviens surtout sur le fait qu'il faudrait que la sérénité revienne dans l'olympisme mondial qui est en train de battre de l'aile avec cette affaire de dopage qui prend des proportions inquiétantes, surtout qui pose un problème d'équité et donne une impression de deux poids, deux mesures.
Le meilleur club africain 2019 pour vous ? Européen aussi ?
Le meilleur club européen, le meilleur club mondial, Liverpool ? Le meilleur club africain, on va parler de quelques équipes qui sont dans la hiérarchie, l'Espérance de Tunis, le Zamalek du Caire, le Wydad de Casablanca. Mais si on doit se référer à la plus illustre des compétitions, c'est bien l'Espérance de Tunis qui a été champion d'Afrique sur les deux dernières saisons, mais avec quelques réserves.
Votre joueur préféré ?
Sur les dernières saisons, je resterai très africain puisque Sadio Mané et Mohamed Salah se sont tirés la bourre sur ces deux dernières saisons avec Liverpool et mériteraient certainement d'être premier ex aequo.
Merci Jules, votre sifflet de la fin en discount. Bon, voilà, malheureusement, notre émission arrive à son terme. C'est la fin de Sporama. Eric Manilakis a été avec vous. La dernière émission de 2019. Bonne année à vous tous. Véroa.